Mais d'abord, Luc Lavoie, bonjour.
Bonjour, Bernard.
On va écouter vite, vite, Luc, petit extrait du point de presse de Christian Dubé qui résume tout, je pense.
Nous avons pris la décision difficile hier soir de reporter la mise en application du décret dans le réseau de santé au 15 novembre. On veut appliquer le principe de la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé, mais pas aux dépens de notre capacité à soigner nos citoyens. C'est comme si on revivait le pire de la première vague, la COVID-19, dans notre réseau de santé où on avait 12 000 travailleurs absents. Et imaginez-vous qu'on a un réseau qui est beaucoup plus fragile qu'il y a 19 mois.
Luc.
Bernard, c'est...
Est-ce que tu es d'accord ou en désaccord avec la décision de Christian?
Je ne sais pas exactement quoi penser, Bernard. Je dirais que ma réaction première serait d'être en désaccord, mais en même temps, tu sais, il y avait la sous-ministre adjointe, là, Mme Aupaterni,
oui,
a expliqué que le gouvernement avait maintenu le 15 octobre. S'il avait maintenu le 15 octobre comme date butoir, 600 lits de courte durée dans les hôpitaux auraient dû être fermés, de même que 35 salles d'opération. Et déjà 80 salles d'opération sur les 470 que compte la province sont fermées. Alors, je m'imagine dans les souliers du ministre, puis je pense que, je peux pas dire que je suis d'accord, mais j'ai confiance en ce ministre-là. Ça c'est beaucoup, ça, Bernard.
Oui,
j'ai confiance.
Raison,
j'ai confiance. Il nous a pas menti. J'espère que c'est le cas encore une fois, parce que je me dis, ça se peut pas qu'il y ait des... D'après les propos qu'il a tenus, ça a été décidé, là, mais vraiment hier soir, tard. Enfin, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'en ai déduit.
Oui, 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 je te confirme.
Alors, il nous arrive avec ces mesures-là, puis, écoute, il nous annonce là, que le système de santé, là, il va falloir qu'il s'ajuste. Il nous annonce ça aussi. Puis là, je suis d'accord avec lui, pas à peu près. Mais là, on parle encore d'une réalité là, de dizaines de milliers, de 22 000 travailleurs. Qui aurait été suspendu si le ministre avait été de l'avant. Bon, j'imagine qu'il a pris la meilleure décision. Je ne connais pas tous les faits comme lui les connaît. Je suis un peu déçu parce que je me dis, je déteste lire une manchette qui me dit les syndicats gagnent. Surtout pas dans une affaire de même. En fait...
Mais je vais te dire une chose, Luc. Puis j'ai communiqué avec un syndicat, je te dirai pas lequel, le matin, parce qu'il y en a qui me parlent, là. Mais il y en a un qui a communiqué avec moi, puis tout de suite, j'ai dit, « OK, vous avez gagné un mois. C'est ça que vous vouliez, là? Vous l'avez eu. Là, j'espère que vous allez sortir, puis qu'on va vous entendre dire à vos membres récalcitrants, à votre 2, 3, 4 % là, de syndiqués, là, que là, vous souhaitez qu'ils aillent se faire vacciner. J'espère qu'on va vous entendre, les syndicats, parce que vous avez demandé un rapport. Un report, dis-je bien. Vous l'avez eu, le report. Ben là, faites votre part. J'espère qu'on va les entendre, parce que depuis le début, soit ils sont contre les mesures, plus souvent qu'autrement, ils trouvent toujours une raison de chialer, ou encore, ces derniers temps, on a eu l'impression qu'ils défendaient la petite minorité de récalcitrants en leur rang, sans penser, semble-t-il, à la vaste majorité des syndiqués, des différents syndicats qui, eux autres, sont déjà vaccinés.
Je ne saurais mieux dire, Bernard. C'est là que le syndicat, s'il veut, je sais pas, se refaire un peu auprès de la population du Québec, ce serait le temps là, de se joindre à toute la société pour qu'on puisse vaincre cette maladie qui nous empoisonne la vie depuis 20 mois. Il me semble que c'est simple, non?
Alors, Luc, je te demande un commentaire à chaud, puis je vais aller au président de l'Association des anesthésiologistes. On va se parler un peu plus tard dans l'émission. Puis si tu souhaites compléter ton point de vue, tu le feras. Puis il y a toujours à 14h notre rendez-vous. Je respecte le fait, Luc, c'est ce que j'essaie de te dire, c'est que je respecte, toi qui as toujours une opinion assez tranchée, là tu me dis, je suis moins sûr, j'hésite, tu sais, je suis pas content, mais je fais confiance, c'est mi figue mi raisin. Ça te ressemble pas, Luc Lavoie, mais je respecte ça parce que dans des enjeux comme ceux-là, on a le droit parfois d'être dans la nuance ou d'être incertain.
Alors, être habité du doute métaphysique.
Ben oui, on est humain, Christy, on est humain.
Mais je répète, j'ai confiance dans ce ministre.
D'accord.
Puis ça fait pour beaucoup, ça.
OK, alors, continuez à m'écrire. Pour ceux et celles qui sont contents, d'accord avec la ministre, avec la décision, dis-je, du ministre, vous me faites le 1 au 98985. Ou encore, si vous n'êtes pas content, vous me faites le 2, 98985, ou encore par courriel, Drainville, A commercial, 985fm.ca. Vous êtes très nombreux à répondre. Ce que je décode à date, là, c'est qu'il y a plus de mécontents que de contents. Mais j'attends. OK, je vous dis, là, on est encore en train de compter, si on peut dire, puis vous continuez à nous écrire. Mais je décode qu'il y a peut-être plus de deux que de un. Mais continuez à le faire. En attendant, on va aller rejoindre le président de l'Association des anesthésiologistes du Québec, le docteur Brian Hood. Bonjour, docteur Hood.
Bonjour, monsieur Drainville.
Vous, êtes-vous content?
J'attendais votre question.
Ben oui.
l'important dans ça, puisque le ministre veut faire, c'est s'assurer que l'accès aux soins de santé persiste. Puis ce qui est bien dans la décision, c'est que ils sont au fait de la situation, sont informés, ils ont des chiffres. Ils savent aussi les conséquences que pouvait avoir le décret le 15 octobre, puis ils sont capables de s'adapter. Fait que moi, ce que je suis content, c'est que l'accès aux soins demeure au moins à ce qu'il est actuellement.
Oui. Il est comment, justement?
Il est fragile. Il est à la limite. C'est un peu actuellement comme un peu. C'est un château de cartes. Là. Si on en enlève une, le château s'écroule. Là. Puis je pense que c'est un peu la lecture que le ministère a dû faire. On a besoin de chaque joueur actuellement. Chaque joueur vacciné, ça c'est primordial. Les gens là, qui ne sont pas encore vaccinés doivent se faire vacciner. C'est essentiel pour que justement le réseau continue de fonctionner puis puisse, pour ce qui est des anesthésiologistes, là, que les blocs opératoires puissent continuer là, à rouler, à reprendre leur activité là, qui sont diminuées depuis des mois.
Je vous demande un chiffre rond, puis je comprends là, que vous ne pouvez pas aller dans le détail, puis je ne vous tiendrai pas rigueur. Donnez-vous un plus ou moins 5%. Mais vous diriez, là, les blocs opératoires fonctionnent actuellement à quel pourcentage? Est-ce qu'ils fonctionnent à 50%? Là, je parle à travers le Québec. 50, ouais. 60, 70? Avez-vous une idée?
Entre 75 et 80%.
Quand même.
Considérant la pandémie et tout ce qui est arrivé, là, la façon dont le système a été affligé par la COVID, là, ça veut dire que les gens dans les hôpitaux, là, ils ont fait des efforts importants pour maintenir les services en place.
Oui. Puis ce qu'on comprend, c'est que Christian Dubé a regardé les scénarios qui lui étaient fournis par les directions des CIS et des CIUS, puis notamment sur l'activité des blocs opératoires. Je suis certain que c'est entré dans sa réflexion, dans sa décision. Il s'est dit, ouais, si je sors, c'est quoi, c'est 12 000 personnes du réseau, mon activité de bloc opératoire va tomber de quoi? 10 %? 15 %? Avez-vous une idée, vous, M. Hood? Si mettons... Là,
non.
Non?
Non, on n'a pas l'idée des chiffres de l'impact que ça aurait pu avoir. Moi, j'ai fait un tour de mes gens là au Québec. Il y a des salles il y a des endroits, des blocs opératoires où effectivement la semaine prochaine il y avait des salles d'opération de moins une ou deux, des fois sur 5, 6, 7 salles qui sont ouvertes habituellement. D'autres endroits où ça n'avait pas d'impact, mais c'est certain qu'à long terme, il y en aurait eu un. Parce que quand il y a moins d'infirmières, par exemple, aux étages pour accueillir des patients qui sont opérés, bien, à un moment donné, c'est qu'on n'est plus capable de les opérer en bas au bloc opératoire parce qu'en haut, à l'étage, ils ne sont pas capables de les accueillir. Fait que il y a un effet là, de domino là, à un moment donné dans le réseau qui est inévitable. Fait qu'il faut faire attention tout le temps à ne pas perdre de joueurs, pas juste au bloc opératoire, mais partout dans l'hôpital.
Donnez-moi un exemple très concret, M. Hood, là. Peut-être vous avez un visage de quelqu'un dont vous avez absolument besoin, puis si le ministre était allé de l'avant là, vendredi, vous l'auriez perdu, puis ça aurait eu un impact très concret là, sur le fonctionnement de votre salle, sur la préparation du patient qui s'en va se faire opérer, tu sais, un scénario très concret.
Oui, bien, par exemple, on va prendre les gens qui font le ménage des chambres, d'accord? OK, à l'étage. Fait que moi, pour pouvoir envoyer un patient du bloc opératoire, il faut que sa chambre à l'étage elle soit prête. Il ne faut pas juste que le patient qui était là ait quitté, mais ça prend quelqu'un pour la nettoyer, la chambre, pour que tout soit propre et accueillir le patient. Mais cette personne-là, là, qui est pas vaccinée, par exemple, OK, qui n'aurait pas été présente lundi prochain, eh bien, là, elle n'est pas là pour nettoyer la chambre. Moi, je ne suis pas capable de faire l'opération parce que la chambre ne sera pas libérée quand le patient va quitter. Là. C'est aussi simple que ça. Ça peut être quelqu'un qui nettoie les instruments pour la chirurgie. Si cette personne-là n'est pas là pour les nettoyer, on n'est pas capable d'opérer. Ou on va pouvoir faire 3 opérations dans la journée puis pas 4 parce que les instruments ne seront pas prêts pour la chirurgie. Les exemples là, sont innombrables.
Et c'est très clair. C'est exactement ce que je vous demandais. Brian Hood, médecin, président de l'Association des anesthésiologistes du Québec. Ben, écoutez, d'une certaine manière, c'est un mois de sursis en espérant que le prochain mois va servir à ceux et celles qui ne se sont pas fait vacciner pour qu'ils aillent se faire vacciner pour que quand on va se retrouver le 15 novembre, qu'on soit capable de continuer dans le fond le plus normalement possible, Dr. Hood. Hein, c'est ça, hein?
C'est mon plus grand souhait.
Lâchez pas. Merci beaucoup.
Ben merci. Bonne fin de journée.
Salut. À la prochaine.
Au revoir.
Alors, 790-9850, je vais prendre des appels après la pause. Là, je viens d'avoir un premier rapport de votre sondage, de notre sondage, mais de vos réponses. On est rendu là à tout près de 500 personnes là, qui ont participé au sondage non scientifique, le sondage Drain-Drain. Et je vous le dis, là, c'est pratiquement 50-50. La moitié qui sont d'accord avec la décision du ministre, la moitié qui sont en désaccord. Puis il y en a parmi vous qui comprenez les raisons, qui étant vraiment, là, vous auriez souhaité là que les personnes soient vaccinées. Là. Tout le monde, pas mal tout le monde s'entend là-dessus. Là. Il y a quelques récalcitrants qui m'écrivent là, pour me donner de la haine, là, vous les connaissez, bon. Mais la vaste majorité aurait voulu qu'ils soient vaccinés. Maintenant, comme ils ne le sont pas, il y en a qui me disent « OK, on leur donne un mois de plus, le ministre, bon, un peu comme Luc a dit, j'y fais confiance. » Mais il y en a qui sont vraiment furieux. Là. Vous êtes là parmi ceux qui sont contre, là, vous n'êtes pas contents. Là. Ceux qui, parce que vous me dites « Hey, moi, je suis vacciné, j'ai fait le sacrifice, ils travaillent dans le secteur de la santé. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas vaccinés? » Il y en a parmi vous qui ne l'acceptez pas. Alors, 790-9850, pour ou contre, après la pause, on va parler à un médecin, justement, qui informe les récalcitrants en espérant qu'avec l'information, ils vont aller se faire vacciner.